Radio Foot International en direct de Doha. Annie Gasnier.
Bienvenue Marcel Khir, toujours ici à Doha, toujours dans l'ambiance de la Coupe du Monde pour notre équipe de Radio Foot International. Et nous commencerons aujourd'hui par la belle victoire des champions du monde sortants. Les Bleus ont battu les Australiens sur le score de 4-1, un doublé signé Olivier Giroud notamment parmi les buteurs. Un résultat pour se rassurer sans doute pour l'équipe de France après quelques erreurs et la blessure, encore une, de Lucas Hernandez. Nous parlerons aussi de ce premier coup de tonnerre de cette compétition. C'est la défaite de l'Argentine de Lionel Messi, humilié par l'équipe d'Arabie Saoudite, battu 2-1. Qu'est-il arrivé à ces Argentins pleins d'ambition pourtant? Et qui sont ces Saoudiens emmenés par un sélectionneur que l'on connaît bien en Afrique? C'est évidemment Hervé Renard. Enfin, une compétition organisée pour la première fois dans un pays du Golfe Persique qui attire un public nouveau. Eh bien, nous en parlerons grâce notamment à un reportage. Invité dans notre studio à cette heure bien tardive du côté de Doha, il est là, Benjamin Moukondjo. Bonjour Benjamin.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors une petite musique pour vous accueillir. Ah, vous oui. Savez que les Camerounais, ils chantent dans le métro ici.
Oui, bah, j'ai vu les vidéos d'ailleurs, hein. J'ai vu dans les, sur les réseaux sociaux. Ah, c'est bien, ça veut dire qu'ils sont présents maintenant.
Hein, ils sont présents, ils font
la fête. On les attend jeudi nombreux sur le terrain pour supporter et pousser l'équipe vers la victoire.
Ouais, exactement. Il faudra commencer bien pour le Cameroun, mais on aura le temps d'en reparler puisque ça sera dans 2 jours. Un autre lion dans cette émission. Lui, il est lion de la Teranga, comme on dit du côté de Dakar. Bonjour Babacar.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Notre confrère et camarade Babacar Fall, donc rédacteur en chef de RFM Dakar et correspondant de la rédaction des sports. Et puis il y a un... alors il n'est pas Lyon, il aurait pu être un peu argentin aujourd'hui.
Un peu Puma, un peu Coq, voilà. Un peu universel. Bonsoir Annie.
Vous êtes à moitié gagnant, à moitié perdant peut-être ce soir. Bonjour Eric Mamrut.
Il n'y a pas de victoire. Oui, il y a l'équipe de France puis la Tunisie effectivement que j'ai suivi, là, les aigles.
Exactement. Aujourd'hui. Nous aurons aussi Carlos Pizarro qui était justement dans le stade et qui a aperçu Lionel Messi. Pour réaliser cette émission et la préparer, David Finzel bien sûr et Laurent Salerno, aidé de Léo Bernard, Cyril Etienne et Benjamin Avayou. Radio Foot, c'est parti.
Ballon dans la surface pour les Australiens, le très bon centre de Goodwin et le but australien, le coup de poignard pour l'équipe de France. Théo Hernandez, le bon centre et l'égalisation française, Adrien Rabiot de la tête. Récupère le ballon Adrien Rabiot, le centre vers Giroud, le but Olivier Giroud. 50e but pour 115 sélections. Mbappé, le poteau, le but de Kylian Mbappé. 3-1 pour l'équipe de France. Et le but d'Olivier Giroud, c'est Papy 51. Ça y est, il l'a égalé Thierry Henry. 51e but d'Olivier Giroud. 4-1 pour l'équipe de France.
Des champions du monde en titre qui entrent dans la compétition, ils sont toujours très attendus et surtout depuis ces derniers temps on les voyait perdre leur premier match. L'équipe de France entre donc en gagnant la compétition par le score de 4-1 et après avoir, on va y revenir, encaissé un premier but assez tôt des Australiens. On va tout de suite faire le point avec Frédéric Suto qui était aux premières loges et aux commentaires. Frédéric Suto, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous les invités.
Alors Frédéric, c'était un match plutôt agréable à suivre. La France a réussi à retourner la situation.
Oui, on vient d'entendre le petit résumé, là, les commentaires de but avec Antoine Grenier. Quand vous sortez d'un stade et qu'il y a eu 5 buts, généralement, c'est qu'il y a eu du jeu. Et c'est vrai que c'était parti très vite. Alors pour les Australiens, les champions du monde français, le coup de poignard cueilli à froid dès la 9e minute, avec ce boulevard là côté gauche, pour Goodwin qui est à fusiller à bout portant Hugo Lloris. C'est vrai qu'à ce moment-là, sachant que sur l'action, Lucas Hernandez s'est blessé au genou et qu'il a dû sortir, on s'est dit, du côté des Français, ça commence vraiment très très mal. Hein, tout ça 3 jours après le forfait de Karim Benzema, enfin bon, etc., etc. Et puis, cette équipe de France, elle a été bousculée de la sorte pendant une petite demi-heure. Mais elle ne s'est pas affolée et c'est ce qui nous montre qu'elle a du ressort, avec notamment Adrien Rabiot qui a été très très bon au milieu de terrain ce soir, et c'est lui qui a sonné la charge, l'égalisation à la 27e, 5 minutes plus tard Olivier Giroud, et là à partir du moment où les Français étaient devant, forcément c'est devenu un peu plus facile, on a retrouvé de la facilité dans le jeu de passe, 2 buts de plus en deuxième période, et à l'arrivée, ce score qui n'est pas flatteur, mais ce score qui lance de la meilleure des façons qui soit le mondial des champions du monde.
Benjamin Moukandjo, cette victoire plutôt confortable des Français, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de l'ensemble de l'équipe de France aujourd'hui ?
C'est vrai que si on s'arrête uniquement au but, il n'y a rien à dire. On dit que les Français ont marqué énormément de buts aujourd'hui, mais moi je reste quand même sur ces 20 premières minutes qui ont été très très difficiles. On a trouvé une équipe qui, je dirais pas qui paniquait, mais qui n'était pas rentrée dans son match. On a l'impression qu'ils étaient encore restés dans le vestiaire. Et je crois que le but a quand même réveillé l'équipe de France. Donc à ce moment-là, le but peut-être est venu au bon moment, parce qu'il y avait encore énormément de temps pour faire basculer la rencontre. Et derrière, on a vu une équipe qui a déroulé, on a vu du jeu, on a vu du mouvement.
À partir de l'égalisation,
ça s'est déroulé. Voilà, on a vu Rabiot qui était très très bon aujourd'hui. On se posait la question avec l'absence de Pogba et Kanté. Il assume et pleinement. Et je trouve que c'est intéressant. Même si aujourd'hui, on peut pas tirer, pour moi, on peut pas encore tirer l'enseignement sur ce match-là, parce qu'en face, c'est l'Australie. Sans manquer de respect à cette équipe d'Australie. On attend un tout petit peu. Je crois que quand on va rentrer en 8e de finale des matchs à élimination directe, là, on pourra avoir un avis beaucoup plus prononcé.
Babacar Fall, cette équipe de France, elle était très attendue aussi, peut-être malheureusement pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que l'équipe de France, elle a perdu beaucoup de joueurs en route, de cadres. Il y avait des débutants ce soir sur cette pelouse, il y en avait 3. Et finalement, Didier Deschamps, il y voit peut-être plus clair.
Des débutants, surtout quand les deux joueurs qui composent la défense centrale, ils ont 0 Coupe du Monde et 0 Euro dans les jambes. Grosse première pour ces gens-là. Ce qui explique peut-être ce que Benjamin Moukandjo disait tout à l'heure, les 20 premières minutes où l'équipe n'était pas vraiment peut-être en place. Mais l'autre enseignement qu'il faut peut-être tirer, c'est cette Coupe du Monde qui commence à s'emballer. Quand on a regardé le match d'ouverture, le niveau qu'il y avait entre le Qatar et l'Équateur, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Après, ça commence à monter un peu. Cette journée d'aujourd'hui aussi, c'est la journée des improbabilités. Vous parlerez bien sûr tout à l'heure de Argentine, Arabie Saoudite, mais également de cette équipe de France avec sa grosse infirmerie, Benzema, avant lui Kanté, Pogba. Aujourd'hui, c'est Rabiot, le banni de la Coupe du Monde 2018, qui fait un gros match, un but, une passe D. Olivier Giroud, qu'on avait pratiquement mis dans le terroir, qui profite du forfait de Benzema, qui se met en évidence, qui égale le record de Thierry Henry. C'est pas n'importe qui Thierry Henry. Donc voilà, c'est ça. Même si Benjamin il dit qu'il faut attendre le second tour, les matchs à élimination directe pour avoir une idée claire de ce que vaut cette équipe de France, mais elle a montré de bons signes ce soir.
Éric Mamrud, quand on voit la France qui encaisse un premier but à la 8e minute, on commence à s'inquiéter, on se dit la malédiction va tomber aussi sur l'équipe de France, vu que elle a aligné, en plus le but survient à un moment où Lucas Hernandez se blesse aussi, et du coup on se dit il y a peut-être un mauvais signe au-dessus de ces bleus.
Oui, mais c'est ça qui est bon, un bon signe pour l'équipe de France, de voir qu'elle a su réagir, ne pas s'affoler, malgré la jeunesse de son effectif, en tout cas, que certains de ces joueurs-là. Et bon, derrière, il y a l'expérience d'un coach aussi. Et le fait de connaître cette équipe d'Australie, ils ont affronté lors de la dernière Coupe du Monde, ils savaient à quoi s'attendre. Ils ont bien préparé ce match. Ils étaient tous conscients que ça avait été compliqué il y a 4 ans. Donc déjà, on en parlera avec l'Argentine peut-être tout à l'heure, mais j'ai l'impression que les Argentins les ont peut-être pas pris de haut. C'est saoudien, mais peut-être ils les connaissaient un petit peu moins. Ils ont peut-être un peu plus paniqué. Là, les Français, un peu plus tranquilles, et avec des tauliers quand même les plus expérimentés qui prennent les choses en main. Un Mbappé, un Giroud qui, même si il n'est pas toujours titulaire, loin de là, il fait le boulot, il a de la bouteille, on l'a vu, il s'est imposé un peu partout dans les clubs où il est passé. Et avec un Rabiot qui, pareil, c'est pas un des cadres, mais il a de la bouteille quand même. Il en a fait des clubs, ouais. Il a de l'expérience. Et là,
beaucoup de Ligue des Champions, et ça peut
jouer, avait, et grâce à ça, l'équipe de France et à sa sérénité quand même, qu'elle a prouvé ce soir, et que ça c'est vraiment un point important, c'est pas affolé, elle a réussi à mettre pas mal de buts, parce que quand même, offensivement, il y a toujours des solutions dans cette équipe.
Frédéric Suto, Olivier Giroud, il a donc marqué ses buts, 50e et 51e.
Oui, il pourrait peut-être finir meilleur buteur de la Coupe du Monde, hein, vous allez voir.
On ne sait jamais. Ça serait une jolie vengeance par rapport à 2018 et un peu les railleries qu'il avait dû subir ces derniers temps.
Ah ben c'est sûr, mais bon, il a su prendre de la distance par rapport à tout ça, hein, et c'est toute sa force, sa sagesse. Il a fait les bons choix quand il ne jouait plus en Angleterre, à Chelsea, transféré au Milan AC avec une éternelle jeunesse, champion d'Italie l'année dernière. Olivier Giroud, il a l'expérience comme l'ossature de cette équipe. De l'expérience, l'aventure d'il y a 4 ans. Mais vous savez, ce match, cette victoire va faire un bien fou, quelle que soit la suite, à tout le groupe qui est sous tension depuis 2 mois. Parce que finalement, avec cet automne particulier où on jouait en club tous les 3 jours, en championnat, en Ligue des Champions, Pogba, Kanté, Babacar le rappelait, les blessés, ça tombait tous les jours, toutes les semaines. Les bonnes nouvelles, il n'y en avait jamais. Hein, finalement, Kunku, qui se blesse, on rappelle Thuram, paf, ensuite c'est Benzema. Bon, on l'a vu, Didier Deschamps, à l'issue de cette partie, il avait la banane, il avait le sourire, une superbe accolade avec Olivier Giroud, et Dieu sait que les relations entre les deux n'ont pas toujours été faciles, et ça va donner à l'équipe de France du temps pour construire la suite de cette Coupe du Monde. Après une victoire comme ça, là, il y a la fête dans le vestiaire. On chante, on se congratule et ça y est, on a lancé sa compétition. Enfin, il préfère être là que Lewandowski qui a loupé son péno avec la Pologne ou Messi qui se demande ce qui s'est passé en début de journée.
Benjamin Moukandjo, vous, buteur, vous comprenez peut-être la joie d'Olivier Giroud aujourd'hui, parce que Olivier Giroud, finalement, on se souvient, il fait toute une Coupe du Monde, on sait, on a souvent parlé du rôle qu'il avait tenu, mais en même temps, il n'avait pas marqué de but, et ça, c'était un peu difficile pour un attaquant.
Oui, mais parce qu'aujourd'hui, les gens, ils regardent énormément les stats, on regarde plus ce que vous faites sur le terrain, on regarde pas le nombre de courses, on regarde pas les ballons qui dévient. Le point d'appui qu'il est, c'est lui qui permet à Griezmann de briller, il libère des espaces pour Mbappé. Ça, c'est des gens qui regardent pas ça. On est juste focalisé sur le fait que l'attaquant, un numéro 9, doit uniquement marquer. Moi, j'aime pas ce style de joueur. J'aime les joueurs qui participent au jeu, qui sont capables de décrocher, qui sont capables d'ouvrir des espaces pour les autres. Et quand il marque pas Olivier Giroud, il a un rôle important. J'ai l'impression que j'ai fait sa campagne pendant des mois et des mois pour qu'il soit sélectionné.
Et notamment à nos micros.
Je suis content parce que pour moi, c'est un joueur qui l'a démontré avec le Milan et dans tous les clubs qu'il est passé. Il s'est imposé, il a marqué des buts. Et on le disait, Annie, vous vous rappelez très bien, que s'il arrive un pépin à Benzema, il fallait qu'Olivier Giroud soit là pour prendre la suite. Et on voit qu'aujourd'hui, Ouais. On l'a dit il y a longtemps et peut-être qu'on a raison, on a eu raison de le dire.
Finalement, Babacar, l'âge n'attend pas, le talent n'attend pas le nombre des années, et c'est-à-dire que là, il a 34 ans, Giroud, et finalement, il démontre qu'on n'a pas besoin d'être jeune seulement pour pouvoir briller. On se souvient évidemment de Mbappé en 2018 qui était si jeune et qui avait été champion du monde, et là, Giroud revient. On a l'impression qu'il avait une motivation peut-être double pour l'emporter.
Vous parlez de l'âge. Ironie de l'histoire, le Ballon d'Or 2022, il a aussi 34 ans.
Ouais. Et donc, mais il n'est pas là, lui, malheureusement.
Oui.
Ni numéro 2, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Vous avez un très, très beau maillot.
Oui, numéro 17, Sadio Mané, Bayern de Munich.
Voilà.
Alors, je veux dire, non, Giroud, Deschamps ne pouvait pas ne pas l'appeler, même avec un Benzema à 100% de sa forme, apte à jouer cette Coupe du Monde-là. Giroud n'aurait pas été peut-être titulaire, mais un bon joker. Et à chaque fois qu'il est souvent rentré, il fait la différence en équipe de France. Giroud s'impose à Deschamps, il s'impose à cette équipe-là, et il s'impose dans cette équipe. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour lui d'abord.
Carlos Pizarro, bonsoir.
Quel cauchemar.
Carlos Pizarro, on va en parler de l'Argentine après, mais pour ce qui est de la prestation des Bleus, vous êtes surpris ou vous pensez que, heureusement, l'équipe de France championne ne perd pas un match d'entrée ?
Non, surtout, j'avais eu un petit peu peur au début avec ces matchs, ces buts qu'il arrivait trop tôt. Et j'ai dit, j'ai eu la sensation d'avoir eu un déjà-vu de ce matin. Mais par contre, voilà, l'équipe de France, il a fait une chose que l'Argentine n'a pas fait. Il s'est calmé et il a superé ses peurs, ses motivations en plus pour revenir. Et là, c'est un vrai champion, c'est vraiment un champion du monde. Quand tu reviens dans un score comme ça, tu restes tranquille et tu finis en beauté, c'est tout le contraire de ce qui s'est passé ce matin. Voilà.
Ouais, exactement. Frédéric Suto, on débriefera poste par poste et joueur par joueur ces prochains temps certainement. Mais je voulais qu'on revienne quand même sur peut-être la prestation de Kylian Mbappé. On l'a vu, passe peut-être sous son meilleur jour ce soir, pas encore.
Oui, c'est vrai qu'il a eu une énorme occasion en première mi-temps. Il est arrivé tellement vite, tellement lancé. Il était à 3 mètres du gardien qu'il a mis le ballon au-dessus. Il y a eu comme ça quelques occasions de but manquées, mais il a très bien fini le match. Hein. Il y a eu ce but de la tête. Hein. C'est suffisamment rare chez Kylian Mbappé pour le souligner. Alors, il avait déjà marqué de la tête en équipe de France en 2021. Il avait marqué 4 buts contre le Kazakhstan, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un but de la tête. Mais en tout cas, il était là. Vous êtes peut-être un peu sévère, en tout cas, il a été altruiste. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, avec Olivier Giroud notamment. Hein. Si Giroud marque 2 buts, il y est pour beaucoup également. Kylian Mbappé, on n'a pas senti qu'il voulait absolument tirer la couverture à lui. Hein, ça peut être le cas parfois avec son club, le Paris Saint-Germain. Il a compris que oui, c'était lui la star, il aimerait enquiller les buts, mais il a su aussi se mettre au service de l'équipe, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose ce soir.
Benjamin ?
Moi, je pense qu'un joueur lambda qui marque un but et qui fait une passe D, tout le monde applaudit, on dit que c'est super. Mais comme c'est Mbappé, on se pose la question de savoir s'il a fait un bon match ou pas. Moi, je trouve qu'il a été intéressant. Maintenant, il n'est pas encore au top niveau qu'on le connaît, mais il est en rodage, c'est le premier match. C'est lui le temps déjà, terminer ce match-là en étant décisif, parce qu'il a été aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Maintenant, on sait qu'il va monter au fur et à mesure en intensité et en puissance. Moi, je sais qu'Mbappé va réaliser une bonne Coupe du Monde.
Eric Mamrut, on a vu des jolis gestes en tout cas de la part de Kylian. Ce plaisir de jouer, et c'est une de ses marques.
Bah, il tente, il provoque, il essaie de...
Il fait des talonnades.
De faire valoir sa pointe de vitesse. Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'il veut montrer, je pense, qu'il peut jouer avec tout le monde, que ce soit Benzema en pointe, avec Giroud, donner des passes décisives. Des fois, il est un peu critiqué pour son égoïsme. Là, comme disait Frédéric, voilà, il veut aussi un petit peu montrer. Non, je ne suis pas que ça, quand même, pas exagéré. Voilà, après, bah, c'est le début de la Coupe du Monde. Voilà, un but, une passe décisive. Forcément, il est attendu par tout le monde maintenant et par toutes les défenses. Il est surveillé, mais là, sur son couloir gauche, quand il partait, effectivement, ça surprend moins l'adversaire, mais ça va quand même très, très vite. Ça provoque des situations avec un nombre de centres incalculables et des possibilités. Voilà, donc tant qu'il se blesse pas, on peut dire que la France est plutôt, sera ouais. plutôt bien, quoi.
Babacar, on a vu Kylian plutôt bien ce soir. On a vu aussi Antoine Griezmann, parce que finalement on se pose un peu des questions autour de tous ces cadres qui étaient là en 2018. Et là, ce soir, Antoine Griezmann, pas toujours très bien ou très heureux dans ses clubs ces dernières années. Ce soir, l'homme de Deschamps est là.
Oui, le chouchou de sélectionneur de l'équipe de France qui change de métier dans cette équipe reléguée entre guillemets au milieu de terrain parce que il n'a plus la performance de jouer sur les côtés, ça va vite. Heureusement parce qu'on a un excellent Ousmane Dembélé, il faut pas l'oublier non plus, très très bon ce soir et ce milieu de terrain là. Oui, Griezmann, oui, mais surtout Tchouaméni et Rabiot. Tchouaméni aussi, magnifique prestation pour sa première dans une Coupe du Monde. Je trouve que, voilà, après, toutes les sélections qui se plaignent des nombreuses blessures aussi doivent apprendre de ce que l'équipe de France a produit ce soir. Il faut savoir rebondir les sélectionneurs. Gros débat d'ailleurs au Sénégal sur comment, avec l'absence de Sadio Mané, on a eu le résultat d'hier soir. Peut-être on y reviendra au cours de cette émission-là. Ben voilà, la France survit à ces problèmes, ces incertitudes qu'il y avait avant ce premier match.
La France a des problèmes de riches, hein. Attention, parce que la France, vu l'effectif qu'ils ont, le vivier de joueurs qu'ils ont, ils sont capables de constituer 2-3 équipes facilement et des équipes compétitives. Donc on ne peut pas comparer quand même à certains pays, notamment au Sénégal. Je ne dis pas que le Sénégal n'a pas de vivier de joueurs, mais si on veut comparer par rapport
à
la France.
Le débat sénégal commence tout de suite, mais
non.
D'accord, vous inquiétez pas.
Non, c'était pour dire que la France, franchement, aujourd'hui, en France, quand il y a un joueur qui est pas présent, on peut le remplacer par un ou deux.
Même ils ont cette possibilité-là. Au choix de Didier Deschamps, on se demande toujours, puisqu'on parle du Sénégal, on reparlera. Je fais un petit glissement. Les gardiens de but. Du côté de Dakar aujourd'hui et de toutes les autres régions du Sénégal, on se pose des questions sur Edouard Mendy. Les gens pensent plutôt qu'on doit jouer la carte Seyni Dieng, le gardien de QPR en championship anglais. Aujourd'hui aussi, il y a des supporters sénégalais, il y a beaucoup de supporters de l'équipe de France qui sont au Sénégal. Ils se demandent si Hugo Lloris il doit être toujours le numéro 1 de cette équipe-là. Mais bon, après, il y a des choses, quand on est gardien de but depuis plusieurs années, en plus capitaine, on ne peut pas être déboulonné peut-être comme ça facilement. Mais sur Lloris, sur Griezmann, il y a des interrogations à se faire.
Bon, bah en tout cas, pour l'instant, on en a eu. On va écouter Olivier Giroud qui était tout à l'heure après le match, après son doublé et qui a analysé la prestation.
Ouais, l'entame entière du match vu de l'ensemble, oui, de notre entame de match, non. Voilà, si on veut être perfectible, il faut mieux rentrer dans le match. On s'est fait un peu peur, mais ce qui est bien, c'est qu'on a vite réagi après. On a su revenir au score et enchaîner. Même si on aurait pu mettre plus de buts, on a vraiment, on s'est bien trouvé, on a été efficace. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais c'est très bien pour la dynamique, la confiance d'avoir renversé la vapeur. Après, voilà. Faudra apprendre de ces petites erreurs quand même.
Et oui, voilà, hein, Benjamin et Babacar, ils vont apprendre de leurs petites erreurs, évidemment, et on en reparlera. En tout cas, dans les statistiques hein, qu'aime bien publier Opta, eh bien, c'est la première fois depuis 1998 et une certaine finale que la France marque encore 2 buts de la tête dans un match de Coupe du Monde. Évidemment, je crois que tout le monde sait qui avait marqué 2 buts de la tête dans le match précédent. Frédéric Suto, merci beaucoup. On vous retrouvera plus tard dans Radio Foot International. Et sur l'antenne de RFI, bien sûr.
Mais j'espère bien.
Merci beaucoup Frédéric, bon retour du stade. Comme nous sommes à Doha, devenus ville-monde et village global en ce moment de Coupe du Monde, on avait envie de vous faire écouter des supporters un peu inattendus de l'équipe de France. Il s'agit de Népalais. On a rencontré des Népalais aujourd'hui qui regardaient d'ailleurs un match important qui était Argentine, Arabie Saoudite, et ça on va y revenir, Carlos Bizarro. Mais c'est des fous de foot, et vous allez entendre en plus, ils aiment les bleus là-bas, du côté du Népal, mais ils vivent ici depuis quelques années.
Je viens du Népal. Je travaille ici, résident depuis 10 ans, et j'ai des tickets pour voir la France. J'ai toujours supporté la France, mon équipe préférée, car j'aime beaucoup ses joueurs. Mbappé, Dembélé, Benzema, qui je sais n'est plus là, mais j'espère qu'elle jouera bien et qu'elle va encore gagner. Bonne chance à la France.
Moi, je suis Bulbul Choudhary. On est tous du Népal ici. Mbappé, c'est mon joueur préféré. À la dernière Coupe du Monde, en 2018, il était le meilleur joueur. J'aime sa rapidité, j'aime son rythme. Quand il joue, personne ne peut l'arrêter. J'aime aussi Benzema et la plupart des joueurs français. Et j'étais un grand fan de Zidane.
Voilà pour ce qui est donc de ces Népalais, Ali et Bulbul Choudhary, que l'on a rencontrés, qui donc doivent assister à France-Tunisie et France-Danemark. On continue justement parce que dans ce groupe, Eric Mamrut, le Danemark et la Tunisie se retrouvaient aujourd'hui. Le Danemark, alors on s'en souvient, c'est pas un très bon souvenir pour la France ces derniers temps. Il l'avait battu par deux fois en Ligue des Nations. Et la Tunisie, équipe solide, puisqu'elle a remporté finalement le premier point du continent africain.
Oui, c'est quand même pas mal. Effectivement, bah, il n'y a eu qu'un seul match avant, donc on va pas non plus tirer le feu d'artifice, mais c'est pas mal quand même, accrocher un demi-finaliste du dernier championnat d'Europe, effectivement, tombeur de l'équipe de France à deux reprises, donc c'était pas un accident, hein, deux fois battre l'équipe de France, ça montre quand même des qualités. Mais là, je trouve que bon, la Tunisie, on sait que c'est une équipe solide, bien organisée, avec une bonne défense accrocheuse. Mais j'étais assez déçu de ces Danois-là, qui n'ont pas montré grand-chose. Vite, sans imagination, sans idée, sans schéma offensif, techniquement parfois discutable. Et qui n'ont pas réussi à percer le verrou du tout, même à ce qu'ils se sont créés très très peu d'occasions. Eriksen en deuxième période, c'était gêné, mais bon, on connaît la Tunisie, franchement, est-ce qu'on est surpris? Alors il y avait une défense à 5 cette fois, est-ce qu'on peut être surpris par ce que propose l'équipe de Tunisie? Non, on sait à quoi s'attendre quand on affronte cette équipe. Donc, à part ça, donc, il y a eu la frappe d'Eriksen, et puis cette tête, il est vrai, à bout portant de Cornelius sur le poteau, mais c'était bien maigre. Hein. Il va falloir que ces Danois haussent leur niveau de jeu s'ils veulent eh bien prétendre à quelque chose d'intéressant dans cette Coupe du Monde.
Vous avez été déçu aussi par le Danemark, Benjamin ?
Oui, sur l'ensemble, parce que forcément, bon, on s'entendait à ce que le Danemark domine le match, mais je pense que la Tunisie avait un plan de jeu qui était clair. Hein. Ils ne voulaient pas perdre, ils ne voulaient pas prendre de but. Ils ont résisté, ils ont été, pour moi, ils ont été agressifs, dans le bon sens du terme, avec une belle équipe en place. Après, j'ai été aussi déçu un peu par rapport à la Tunisie, parce que je crois qu'il leur a manqué quand même ce talent offensif, cette prise de risque offensive, parce que oui,
et
on
encore,
a la Coupe du Monde,
il faut quand même... un petit peu mieux que d'habitude, avec un très bon Msakni, le temps où il a été en jambe, parce que forcément, en jouant depuis toutes ces années au Qatar, il n'a pas 90 minutes dans les jambes à une intensité telle d'un match de Coupe du Monde, mais il y avait des bonnes sorties de balles, il y avait Msakni qui a bien lancé Djebali, qui a failli marquer quand même une superbe occasion, le petit réflexe de Smichel, ça aurait pu faire 1-0 à la mi-temps, on n'aurait rien dit. Donc je trouve qu'offensivement, c'est toujours un petit peu limité. Hein, depuis des années, on cherche un attaquant de pointe, la Caserie est en perte de vitesse, il n'a même pas joué aujourd'hui, Sliti aussi un petit peu en bout de course, donc c'est vrai qu'on sait qu'au niveau munitions... c'est un peu le point faible de la Tunisie, l'attaque.
Babacar, comment vous avez vu, vous, les deux futurs adversaires de la France ?
Alors, je retiens plus la résistance Tunisie, qui a quand même...
qui a arraché un point, finalement.
Arraché un point, ce que les Sénégalais auraient voulu avoir. Les supporters des Lions, ils ne comprennent toujours pas pourquoi on a pris l'eau à partir de la 83e minute hier. Donc,
vous
oui, mais... Le travail des sélectionneurs, c'est important aussi dans ce genre de compétition-là. Je ne veux pas personnaliser le débat, mais quand on a eu aujourd'hui Hervé Renard, peut-être que vous allez parler de lui dans cette émission.
On va parler tout de suite.
Ouais, mais voilà, les sélectionneurs, l'encadrement technique des sélections, c'est hyper important. Prendre les bonnes décisions, gérer les matchs. Le Sénégal aurait pu même se limiter à 1-0 quand il savait que c'était très très compliqué comme ça. Tout le monde se retrouve dans la moitié de terrain des Pays-Bas et voilà, se rencontre un 2-0 qui voilà qui complique les choses. Les problèmes d'attaquants en Tunisie, ça commence à durer. Hein. Depuis la génération des Amrouni, ils sont même allés naturaliser un Brésilien pour régler le problème, Santos, mais ça a fait long feu. Oui, la Tunisie souffre quand même d'une attaque efficace qu'elle cherche depuis quelques années.
En tout cas, Olivier Pron a rencontré certains supporters à la sortie du match et vous allez voir, eh bien, la prestation les a plutôt convaincus.
On est satisfait.
Oh oui, très contente. Ils ont joué très bien. Et on est toujours avec notre équipe. Jusqu'au bout.
Je suis très heureuse d'être ici. Je suis très contente pour la Tunisie. J'espère que dorénavant, pour la France et pour l'Australie, Inch'Allah, on va gagner.
Je suis très heureuse. J'ai trop aimé le match. La performance de l'équipe tunisienne était au top.
Non, de nous, les Français sont pères maintenant de nous.
On va gagner la France, 2-0, 3-0.
Ils ont vu notre match, on est guerrier dans le match. La Tunisie est small comme ça, big comme ça. Petite comme ça, grande comme ça.
La sensation forte de cette troisième journée, c'est le coup de tonnerre, on va dire. C'est tombé sur la tête de Benjamin Moukandjo, vient de nous le dire. Venu de cette rencontre au stade de Lusail entre Argentins et Saoudiens. Saoudiens, les voisins du Qatar.
Al-Dawsari.
2-1 für Saudi-Arabien.
Señoras y señores, gol de Arabia Saudita.
Arabia Saudi 2, Argentina 1.
Une secousse mondiale, une défaite inattendue et douloureuse, un gros coup de ceux qui laissent des marques. C'est ainsi que le quotidien sportif Olé de Buenos Aires, tout à l'heure, et décrivait cette défaite argentine face à l'Arabie Saoudite, alors que les habitants de Buenos Aires, des passionnés de football, me racontaient une amie, eh bien, sont restés muets, paralysés, sonnés par les deux buts de la défaite. Alors ici, on va entendre un supporter argentin au micro de Cédric de Oliveira, un certain Mathias, et lui, justement, il était dans le sillage de l'Albiceleste, comme tant de supporters, hein, il y en a beaucoup, ici, Carlos.
Il y avait beaucoup, mais après, il n'y avait que des verts. Au début, il y avait des bleus, blancs, verts. Il y avait une égalité, mais à la fin, vraiment, je voyais que des verts partout.
Bah, je crois que Mathias, il a vu vert aussi. Vous allez...
Ouais. Ah, non.
Vous allez entendre.
C'est dommage. On pensait qu'on pourrait gagner facilement. Et on a encore deux matchs où on peut changer le destin. L'Arabie, pour moi, c'est le meilleur match qu'ils ont joué dans sa vie. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'ils ont joué vraiment bien. Et l'Argentine, on n'a pas joué comme on peut. Ils sont les responsables de ces victoires. Je pense que l'Argentine, il peut encore améliorer. Et avec les deuxième but, on a pu changer le destin. Mais ouais. C'est mieux de perdre aujourd'hui et pas perdre après. Donc, ouais, je pense qu'on peut encore améliorer. C'est ça. C'est football. C'est pour ça que le football, c'est magnifique.
Bah oui, le football, c'est magnifique, même quand on perd, semble-t-il dire. Moi, je vais vous poser la question que se posent tous les Argentins, Carlos. Que pasó?
Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu beaucoup de facteurs pour lire un petit peu ces défaites-là. Et je vais commencer par les plus positives. La défaite, c'est pas une grosse défaite après les matchs nuls entre le Mexique et la Pologne. Ça, ça soulage énormément,
ouais,
parce que ça pourrait avoir été beaucoup plus lourd. Et donc, et ça équilibre un petit peu les groupes. Et même si les Argentins, ils se sont plaints un petit peu de ces trois buts consécutifs en hors-jeu, par les barres, 13 millimètres et tout ça, ça pourrait avoir changé carrément le match.
Parce qu'après, même, hein.
Oui, il y avait un hors-jeu, mais un hors-jeu à 40 mètres de la surface, vraiment assez loin, c'est vrai, c'est juste aujourd'hui avec les nouvelles normes, les VAR et tout ça machin. Et à l'époque, peut-être ça pourrait avoir changé. Et c'est un match que la deuxième mi-temps, il a changé radicalement. Le début des audiences ont été des super buts.
Ouais,
on va avoir rien dire. Mais comme on avait dit avant, c'est inquiétant la défaite parce qu'il n'y a pas eu de réaction. La réaction qu'a eu la France, ça l'a manqué à l'Argentine.
Mais il n'y a même pas eu d'action. Hein.
Oui, mais ça manquait des réactions, ça manquait de vitesse, l'équipe,
il a coulé. Le but de Messi est sur pénalty en plus, hein, celui qui compte en tout cas.
Voilà, ils étaient tranquilles, ils avaient de la confiance, on va dire comme ça, parce qu'on dit, on va se promener, voilà.
Peut-être
tout était prévu pour se promener.
Voilà,
tout était prévu pour faire vraiment un chemin assez agréable. Mais et après, ça est devenu un cauchemar. Et quand l'Argentine il a voulu réagir, c'était déjà trop tard. Mais les plus inquiétants, comme je vous dis, c'est qu'il n'y avait pas eu des systèmes de jeu, des vitesses, des réactions, de tout. C'était une Argentine irréconnaissable. Après 30 victoires consécutives, c'était
36 matchs sans défaite.
Sans défaite, voilà.
Effectivement.
Et 30 victoires. Mais voilà, ça c'est les plus inquiétants. Parce qu'on dit, en grosse équipe, il doit réagir rapidement. Et on va pas mettre toute la pression sur Messi, on va pas donner tous les ballons comme Messi, comme avant, qu'il pourrait mettre l'équipe sur son dos et revenir et tout ça. Ça, c'est une autre histoire, complètement différent. Donc, je pense que ça, c'est le plus inquiétant et c'est pour ça que les supporters, ils étaient un petit peu déçus parce qu'ils ont pas vu, même l'Argentine s'accrocher au match. Les Saoudiens, ils ont bien joué à les Latino-Américains aussi. Ils ont bien perdu le temps, ils ont bien arrêté les jeux. Vraiment, on a changé d'équipe d'un côté à l'autre. Voilà, c'est ça qui s'est passé.
Benjamin,
j'ai encore mal à la tête. Je vous assure, Annie, parce que moi j'étais au match et hier notamment, je suis allé avec un collègue, un confrère qui est argentin comme vous, qui adore l'Argentine, qui adore Messi.
Et vous aussi, apparemment.
Ah oui, on a cette passion commune là. Et je me suis dit que je devais aller voir le match parce que moi aussi j'adore l'Argentine et je suis parti au stade. Pour moi, l'Argentine n'est jamais entrée dans ce match. Jamais. Parce que vous pouvez pas être l'Argentine, vous jouez contre l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin. Aucune intensité. Aucune course. Aucun changement de rythme. Mais vraiment rien. Ils jouaient, on avait l'impression qu'ils étaient à l'entraînement. C'était tranquille. Ils ont eu le pénalty, ils ont marqué. Mais pour moi, je me dis, mais c'était un match triste pour l'Argentine.
Ils n'ont pas respecté l'Arabie Saoudite.
Ils n'ont pas respecté. Et quand je regarde le match d'aujourd'hui entre la Pologne et le Mexique, je me dis, l'Argentine est en grand danger.
Ouais.
Parce que l'intensité que j'ai vue sur ce match-là, si les Argentins ils ne mettent pas d'intensité dans leur jeu, c'est pas possible d'exister dans une Coupe du Monde.
Fait,
on ne peut pas uniquement espérer que Messi, à chaque fois, qu'il fasse des différences, qu'il fasse des éclats. Mais aujourd'hui, l'Argentine...
Est-ce que ce n'est pas le 4-2-4 du sélectionneur de l'Argentine qu'il faut remettre en cause?
Pour moi, le système...
Tu mets 4 attaquants...
Pour moi, le système, c'est les joueurs qui animent le système. Vous pouvez mettre tout système que vous voulez. Vous pouvez mettre un 3 derrière, un 3-4-3. Vous pouvez mettre un 5-3-2 comme vous voulez. Si vous n'avez pas des joueurs qui font des courses, qui animent votre système, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Et il faut reconnaître que l'Argentine, aujourd'hui, dans son équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ont dépassé des 30 ans, 32 ans, c'est une équipe vieillissante. À un moment donné, il va falloir changer quand même. Il faut la reconstruire, l'équipe.
Je suis tout à fait d'accord, mais voilà, je suis pas contre tout ça. Les problèmes, c'est que même avec les trois changements de tout en cours, l'équipe, il n'a pas changé non plus. Donc, c'est incroyable. On peut dire que toutes les équipes, il peut avoir un mauvais jour. On va dire que c'était les mauvais jours de l'Argentine. Je suis espagnol et quand on a gagné la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ils ont perdu le premier match. Après, voilà. Mais par contre, l'Espagne, elle avait bien joué face à la Suisse. C'est ça la différence. Et c'est ça les plus inquiétants. Mais c'est irréconnaissable. Vraiment, c'est pour ça. Je pense que l'Argentine n'a pas rentré encore dans la Coupe du Monde.
Mm-hmm.
C'est ça le problème, c'est mental. Parce que cette équipe-là,
c'est totalement mental.
Il y a tout pour faire un bon championnat du monde.
Éric Mamrut.
Moi, j'ose espérer que c'est un péché d'orgueil de la part de cette équipe argentine. On parlait de la série d'invincibilité. Mine de rien, on se sent invincible.
En match de préparation, ils ont battu 5-0. C'était l'équipe, oui, une équipe du golf. Voilà. Les Émirats Arabes Unis, je crois.
Tu l'as regardé, Eric, la série d'invincibilité? Ils ne comptent pas des grosses équipes. Hein. C'est la Bolivie, c'est des équipes.
Oui. Ils ont battu le Brésil quand même en finale de la Copa América.
Le Brésil. L'équipe bis aussi.
Le Brésil, c'est une petite équipe en finale de Copa América au Maracana quand ils gagnent la Copa América.
C'est la seule équipe qu'ils ont
rencontrée. Ils se battent presque en Amérique latine. Ils se battent tous presque. Il ne faut pas dire contre la Bolivie, c'est rien. C'est quelque chose. Là-bas, tous les matchs sont difficiles.
En tout cas, ça a dû leur monter.
En hauteur.
Ça a dû leur monter un petit peu au cerveau quand même malgré tout. Et d'ailleurs, on entendait ces derniers temps Lionel Messi, qu'est-ce qu'il disait à ses camarades? Il disait, attendez, attention, faites attention, parce que on nous encense, on nous place comme favoris, mais vous allez voir, c'est très compliqué une Coupe du Monde. Il n'arrêtait pas de les rassurer. Et apparemment, à raison, apparemment, le message n'est pas totalement rentré. Et là, je pense, il vaudrait mieux pour eux que ça leur serve de leçon et que là, ils se mettent vraiment dans la compétition. Et d'ailleurs, apparemment, Carlos, ils se sont parlé beaucoup dans les vestiaires après pour se remettre les idées en place, quoi.
Oui, énormément. Ça peut servir même des motivations pour l'équipe pour revenir. On attend, parce que bien, c'est pas seulement pour les Argentins, c'est pour les gens qui adorent le foot, avoir une équipe qui marche et qui soit compétitive et qui joue au foot, vraiment. Mm-hmm. Et c'est ça.
Cette équipe argentine, bon, j'ai quand même vu pas mal de ces derniers matchs, ça jouait avec Scaloni, c'est pas du tout le même jeu, la même qualité de jeu qu'avec Sampaoli. Lors de la Coupe du Monde 2018, tous les matchs étaient à l'arraché, la victoire face au Nigeria, c'était laborieux. Là, il y a un fond de jeu, ça joue, il y a deux postes qui apporte. Bon, là, Lo Celso est absent, peut-être, effectivement, il y a une perte à ce niveau-là, au milieu du terrain, peut-être, effectivement. Oui. Mais son jeu, il est pas loin. Là, elle l'a laissé au vestiaire, mais elle peut le retrouver, je pense, assez facilement.
Une petite précision par rapport à ce qu'il dit, Eric. On a attendu pas mal de temps, presque 2h15, pour faire des interviews à seulement des joueurs qui sont partis de la zone mixte, qui sont venus. C'est heureusement Angel Di Maria et Léo Messi. Parce que l'équipe de l'Argentine, il a payé la contravention de 3 joueurs qu'il doit passer forcément par la mix zone. Ils sont pas passés. Ils ont préféré payer une contravention à la FIFA. Et quand toute l'équipe l'a passé, personne n'a rien dit. C'était vraiment un deuil. Mais heureusement que Messi, il était là. Alors voilà. Et c'est un nouveau Messi, plus serein, plus mûr.
Eh bien, on va l'écouter justement, ce Messi que vous avez vu et à qui vous avez tendu le micro.
No, creo que encontramos el gol muy, muy rápido. Tuvimos esas situaciones de los goles anulados.
On a marqué un but très rapide et puis des buts annulés. Et aussi de nombreuses occasions pas concrétisées. On a accéléré, mais on est tombé dans leur piège du hors-jeu. On ne savait pas qu'ils le maîtrisaient si bien. Et puis, on a peu à peu perdu le fil de ce que nous savons faire d'ordinaire. Mais on reste plus unis que jamais. On verra pour le Mexique, mais nous, on se dit toujours qu'il faut gagner nos matchs, et aujourd'hui plus que jamais.
C'est étonnant, non, Babacar? Vous parliez de système tout à l'heure. Alors, je reste un peu sur la tactique avec vous, mais il dit, on n'avait pas imaginé que l'équipe puisse jouer aussi bien le hors-jeu. L'équipe adverse joue aussi bien le hors-jeu.
Oui.
Quand on entend ça, on est un peu surpris. Alors, je ne sais pas qui n'a pas fait son travail, la vidéo, le sélectionneur, mais c'est étonnant, non?
Oui, le travail de l'Arabie Saoudite, c'est son sélectionneur Hervé Renard, qui ont sans doute regardé beaucoup de vidéos de cette équipe argentine et ont préparé comment les piéger hors-jeu. C'est très bien parler de la défaite de l'Argentine, mais de la grosse performance de l'Arabie Saoudite. Est-ce que, je sais pas si vous avez des infos, on annonçait Messi probablement indisponible pour ce premier match. Lui-même, il prend la parole hier pour dire qu'il est prêt. Est-ce que physiquement, il était vraiment prêt, Léo Messi, ce soir?
Parce que vraiment, il est prêt, les joueurs, il est prêt. Mais vraiment, comme Messi, il était disparu, l'équipe, il était disparu. C'était quelque chose que, je dirais bien, irréconnaissable. Par rapport à la défense des Saoudiens, c'était bien mené, presque collé à la ligne de milieu.
La Messi dépendance, est-ce qu'elle ne... Elle n'étouffe pas un peu?
Non, c'est pas la même. Hein.
Les Lautaro, Martinez.
Je pense pas que la Messi dépendance, c'est pas pareil maintenant. C'est un autre Messi complètement différent. Je pense que Messi, c'est un autre joueur. Il profite beaucoup plus de foot. Il regarde d'un autre côté le foot. Comme je vous ai dit, il est beaucoup plus serein, beaucoup plus de la tête. Et c'est rien à voir avec ça. C'est Renard. Il a bien joué stratégiquement. Vraiment, la défense, c'est ça qui s'est devenu un cauchemar pour les Argentins.
Eh bien, justement, il y a eu ce but deux buts très
super beaux
buts de l'équipe saoudienne, et on va en entendre un des deux justement. Et tous ces supporters dans la rue qu'on a croisés, heureux.
J'ai vécu le match pratiquement avec eux parce que j'étais collé avec les Saoudiens. Ils étaient un petit peu mécontents parce que j'étais arrosé par la bière. Mais j'étais pas mécontent par la bière parce que c'était la bière sans alcool. Voilà, c'est vraiment la grande chose. J'étais un petit peu déçu.
Ça va, vous êtes pas. Vous étiez bien. Les idées bien en place à la fin du match. Babacar, Fall, cette prestation de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous aviez l'air de suggérer que c'était aussi grâce à un homme? C'est Hervé Renard, et on le connaît bien en Afrique. Il avait emmené l'équipe de Zambie comme championne d'Afrique, puis l'équipe de Côte d'Ivoire en 2015.
À l'espace de 3 ans, 2012-2015, c'est Monsieur Miracle, ce mec. Mais on s'intéresse pas peut-être beaucoup à cette guerre d'Arabie Saoudite. C'est une sélection club. Il y a 12 joueurs qui appartiennent. Oui, c'est ça. C'est presque le foot à la maison. Ces gens-là, c'est une famille, quoi, qui travaille depuis plusieurs années. On ne surveille peut-être pas la progression de cette équipe-là, mais
on ne voit pas beaucoup jouer, effectivement.
Oui. Même si Hervé Renard, voilà, très intelligent, à la fin du match, il dit que c'est très probable que l'Arabie Saoudite soit qualifiée en huitième de finale, mais on sait que ça va, ben alors très certainement arriver, quoi.
Benjamin, vous avez été bluffé par cette équipe saoudienne?
Oui, c'est vrai qu'on a mis beaucoup l'accent sur le manque de réussite ou même de jeu de l'Argentine, mais on met pas en avant cette équipe d'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est elle qui fait déjouer l'Argentine par ce pressing qu'elle a mis pendant les 90 minutes. Moi, j'ai adoré l'arrière gauche, je sais plus trop comment il s'appelle, mais il a fermé Di Maria pendant tout le match, on l'a pas vu. Je trouve qu'elle dégageait beaucoup de sérénité, d'abnégation, surtout en deuxième mi-temps quand elle est revenue. Elle a basculé le match, tout simplement. Je crois que ils peuvent se qualifier s'ils continuent comme ça, avec le même état d'esprit, avec la même intensité.
Éric Mamrut, Hervé Renard, 3 ans de travail avec cette sélection de l'Arabie Saoudite. Il l'a qualifié, évidemment, c'était l'important. Et en plus, ça donne un rayonnement quand même. On se dit, on vient dans une région. Alors, le Qatar en soi n'est pas passionné par le football, mais par contre, on sait que c'est une passion en Arabie Saoudite et qu'ils sont forts. Ils ont des clubs, ils ont un championnat.
Oui, c'est un pays qui a une histoire en Coupe du Monde.
En plus.
C'est pas sa première.
Ouais, ouais.
Et il faut pas oublier que tous les pays arabes là, qui sont à cette Coupe du Monde jouent quasiment à domicile. Ce facteur, ça transcende. Hein. On l'a vu aujourd'hui avec la Tunisie. Le stade, il était entièrement rouge en faveur de cette formation tunisienne. Et les joueurs nous l'ont dit après en zone mixte, ça nous a aidés. Au moment où on déclinait un peu physiquement, le public nous redonnait de la force. Et forcément, une équipe saoudienne qui joue ici, la première Coupe du Monde arabe, ça la transcende. Et Hervé Renard, c'est un meneur d'hommes. On l'a bien vu, vous reparliez de cette expérience avec la Zambie. Zambie qui aurait imaginé quelques mois auparavant que les Chipolopolo allaient gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Hervé Renard, on connaît sa méthode. C'est un affectif avec ses joueurs, il est très dur, mais... Babacar employait à raison le terme de famille, mais c'est ça, il arrive à créer une famille avec son autorité et c'est son équipe est prête à mourir pour lui presque, avec son adjoint Hervé Baumel, Patrice Baumel. Tout le monde suit derrière. Ça fonctionne très très bien.
Si vous suivez les réseaux sociaux au Sénégal, les supporters des Lions le réclament. Il habite
Il habite au Sénégal, Hervé Renard.
Ouais. Ça y est, lui aussi, c'est fini. Alors. On apprend quelque chose.
En tout cas, c'est la fin déjà de ce Radio Foot. Merci beaucoup. Vous voyez, il se passe plein de choses. Mais demain, en Arabie Saoudite, c'est une journée fériée, justement, pour décrétée par le roi, pour fêter cette victoire. Merci à tous de nous avoir suivis. On sera là demain soir parce qu'il se passe plein de choses et on vous racontera l'essentiel. Merci à tous. À toi, l'Africain.